Chapitre 12. Le marché de vérité. Quand on compare toutes les archives, il apparaît clairement que seules 2 dizaines de navires pirates se sont réellement aventurés dans l'intérieur jusqu'à Turlac et qu'une 12aine a continué au-delà pour menacer les villages proches de Gué de Négoce. Les ménestrels, eux, voudraient nous faire croire que les navires sont arrivés là par vingtaines et que leurs ponts grouillaient de centaines de pirates. Dans leur chanson, les berges de la Serre et de la Vin, cet été-là, étaient rouges de flammes et de sang. Il ne faut cependant pas les en blâmer. La détresse et la terreur de cette époque ne doivent jamais quitter les mémoires, et si un ménestrel doit broder sur la vérité pour nous aider à en conserver le souvenir, qu'on le laisse faire et qu'on ne permette à personne de prétendre qu'il ment. La vérité est souvent plus grande que les faits. Astérie revint ce soir-là en compagnie du fou. Nul ne lui demanda pourquoi elle ne montait plus la garde. Nul ne suggéra même que nous fuyions la carrière avant de nous y trouver pris au piège par les troupes de Royal. Nous allions rester. Nous n'allions pas lâcher un pouce de terrain et nous allions nous battre pour défendre un dragon de pierre. Et nous allions mourir, cela allait sans dire, littéralement. Nul parmi nous n'exprima cette évidence. Quand Ketriken sombra dans le sommeil, épuisé, je la portais dans la tente qu'elle partageait avec Vérité. Je la déposais sur ses couvertures et l'abordais de mon mieux, puis je me penchais et baisait son front aux rides trop apparentes, comme j'aurais embrassé mon enfant endormi. C'était une sorte d'adieu. J'avais décidé qu'il valait mieux agir dans l'instant, car seul l'instant était désormais certain. Au crépuscule, Astérie et le fou vinrent prendre place près du feu. La ménestrelle se mit à jouer doucement de sa harpe, sans un mot, le regard perdu dans les flammes. Un poignard dégainé gisait par terre à côté d'elle. Je demeurai un moment debout à observer le jeu de la lumière du feu sur ses traits. Astérie, chant d'oiseau. Dernière ménestrelle des derniers rois et reines légitimes de la lignée des loin voyants. Elle n'écrirait jamais de chanson qui traversa les générations. Le fou, immobile, écoutait la harpe. Entre Astérie et lui était née une sorte d'amitié, et je me surpris à songer. Si c'est le dernier soir où elle joue, il ne peut lui faire de plus beau présent que de l'écouter bien et de se laisser bercer par son talent. Je l'ai laissée seule, aller chercher une outre pleine d'eau et gravit lentement la rampe qui menait au dragon. Œil de Nuit me suivit. Plutôt, j'avais allumé un feu sur le socle. J'y déposais ce qui restait du bois rapporté par Ketriken, puis m'assis près des flammes. Caudron et Vérité dormaient toujours. Une fois, Imbre avait pris de la graine de Carice 2 jours de suite. Quand il s'était effondré, il lui avait fallu presque une semaine pour se remettre. Et il avait passé ce temps à dormir et à boire de l'eau. Mes deux voisins n'allaient pas s'éveiller de si tôt. Mais ce n'était pas grave. Il n'y avait plus rien à leur dire, de toute façon. Je ne les dérangeais donc pas et montais la garde auprès de mon roi. Piètre gardien, je fus tiré de mon sommeil par Vérité qui murmurait mon nom. Je me redressai aussitôt sur mon séant et me saisis de l'outre. « Mon roi, » fis-je à mi-voix. Mais Vérité n'était plus allongé sur la pierre. Faible et réduit à l'impuissance, il était debout à côté de moi. Il me fit signe de le suivre. Je me levai et l'accompagnai d'un pas aussi discret que le sien. Au pied de l'estrade, il se tourna vers moi. Sans un mot, je lui tendis l'outre. Il en but la moitié, s'interrompit un instant, puis la termina et me la rendit. Il s'éclaircit la gorge. « Il existe un moyen, » fit ce chevalerie. Ses yeux noirs, si semblables aux miens, se braquèrent sur moi. « Ce moyen, c'est toi. Toi, qui es si riche de vie et d'envie, si déchiré de passion. » « Je sais. » dis-je. Je mis toute ma vaillance dans ces mots. J'étais plus effrayé que je ne l'avais été de toute mon existence. Certes, Royal m'avait épouvanté dans ses cachots, Mais c'était à cause de la souffrance. Cette fois-ci, il s'agissait de mort, et la différence m'apparut brusquement. Trahissant mes affres, mes doigts se mirent à triturer l'ourlet de ma tunique. « Ça ne te plaira pas, » m'annonça Vérité. « Moi non plus, ça ne me plaît pas. Mais je ne connais pas d'autre solution. Je suis prêt. » C'était un mensonge. J'aimerais seulement revoir Molly une dernière fois, m'assurer qu'elle et Horty sont en sécurité, et Burick aussi. Son regard me scruta. Je me rappelle le marché que tu as proposé, ta vie contre l'assurance que je ne prendrai pas Horty pour le trône. Il détourna les yeux. Ce que je te demande aujourd'hui est pire. C'est ton existence, toute la vie et toute l'énergie de ton corps. Mes passions ont disparu, vois-tu, il ne me reste rien. Si je pouvais seulement susciter en moi rien qu'une nuit de sentiments, si j'arrivais à me rappeler ce que c'est que désirer une femme, tenir la femme que j'aimais dans mes bras. Sa voix mourut. J'ai honte de te demander cela, plus que le jour où j'ai puisé dans ton énergie alors que tu n'étais qu'un adolescent innocent. Ses yeux croisèrent à nouveau les miens, et je compris qu'il faisait un effort pour employer des mots qu'il savait imparfaits. Mais, vois-tu, même cette honte, cette douleur de t'infliger ce sort, même cela, tu me le donnes ? Même ça, je puis le mettre dans le dragon ? Son regard quitta le mien. Le dragon doit prendre son envol, Fitz. Il le faut. Vérité, mon roi. Ses yeux se perdirent dans le lointain. Mon ami. Ses yeux revinrent sur moi. Ce n'est pas grave. Mais je voudrais revoir Molly, encore une fois, même brièvement. C'est risqué. Le sort de Carod a dû inspirer une terreur intense à nos ennemis, car ils n'ont plus rien tenté par la force contre nous, seulement par la ruse. Pourtant, s'il vous plaît, dis-je à mi-voix. Vérité soupira. Très bien, mon garçon. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Il ne me toucha pas. Il ne prit même pas le temps d'une respiration, tant son art était puissant. Nous nous retrouvâmes ailleurs avec Molly et Burick. Je sentis Vérité reculer pour me laisser l'illusion d'être seul. J'étais dans une chambre d'auberge, propre et bien meublée. Un candélabre éclairait une miche de pain et un saladier de pommes posé sur une table. Torse nu, Burick était couché de côté sur le lit. Une épaisse croûte recouvrait la plaie du coup de poignard et le sang avait imbibé ses brais au niveau de la taille. Sa poitrine montait et descendait au rythme lent du sommeil. Roulé en boule autour d'Horty, il avait jeté un bras protecteur sur mon enfant qui dormait profondément, mussé contre lui. Je vis Molly se pencher sur eux et tirer adroitement la petite dessous le bras de Burick. Horty n'ouvrit même pas un œil quand sa mère la déposa au fond d'un panier, dans un des angles de la pièce, et borda les couvertures autour d'elle. Seule, sa petite bouche rose s'agitait à un souvenir de lait tiède. Son front était uni sous ses cheveux noirs et lisses. Les épreuves qu'elle avait traversées ne paraissaient pas l'avoir marquée. À geste efficace, Molly versa de l'eau dans une cuvette, puis prit un tissu plié, retourna auprès de Burick et s'accroupit. Elle posa le récipient à côté du lit, y trempa le linge, l'essora et l'appliqua sur les reins de Burick. Il se réveilla brusquement avec un hoquet de surprise et vif comme un serpent, il saisit le poignet de Molly. « Burick, lâchez-moi! Je dois nettoyer votre blessure !» fit Molly agacée. « Ah, c'est vous !» dit-il avec soulagement. Il desserra sa prise. « Bien sûr que c'est moi! Qui voulez-vous que ce soit ?» Elle tapota la plaie, puis trempa de nouveau le chiffon dans l'eau. Le tissu et l'eau de la cuvette étaient teintés de rouge. Burick tâta prudemment le lit près de lui. « Qu'avez-vous fait de ma petite ? » demanda-t-il. « Votre petite va bien. Elle dort dans le panier là-bas. » Elle passa encore une fois le chiffon sur la plaie, puis hocha la tête. Le sang a cessé de couler, et la blessure m'a l'air saine. Je pense que le cuir de votre tunique a amorti le coup. Si vous vous redressez, je pourrai vous bander. » Lentement, Burik obéit. Il poussa un petit grognement de douleur lors du mouvement, mais une fois assis, il fit un grand sourire à Molly en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Des abeilles de vif, hein ? » fit-il d'un ton admiratif, et il secoua la tête. Manifestement, ce n'était pas la première fois qu'il prononçait cette phrase. « C'est tout ce que j'ai trouvé, » répondit Molly. Elle ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. « Mais ça a été efficace, non ?»«
Étonnamment, en effet. Mais comment saviez-vous qu'elles allaient se jeter sur le rouquin ?»« Parce que c'est ça qui a convaincu ces malandrins et qui a bien failli me convaincre aussi, sacrebleu. »
Elle hocha la tête. « J'ai compté sur la chance et aussi la lumière. » Il tenait le candélabre et il se trouvait devant la cheminée, alors que le reste de la chaumière était dans l'obscurité. La lumière attire les abeilles presque autant que les papillons de nuit.
« Je me demande si elles tiennent encore la maison. »
Et il sourit à nouveau tandis que Molly se levait pour emporter le chiffon et l'eau ensanglantée. « J'ai perdu mes abeilles !» lui rappela-t-elle d'un ton attristé.
« Nous irons en enfumer d'autres !»
répondit Burik pour la consoler. Elle secoua la tête avec accablement. C'est quand elle a travaillé tout l'été qu'une ruche donne le plus de miel. Sur une table dans un coin, elle prit un rouleau de bandage propre et un pot d'onguent dont elle huma le parfum pensive. Ça n'a pas la même odeur que celui que vous préparez.
Ça opérera quand même sans doute, dit Burik.
Le front plissé, il balaya la pièce du regard.
Molly, comment allons-nous payer tout ça?
Je m'en suis occupé. Elle se tenait toujours dos à lui.
« Et comment ? »
demanda-t-il d'un ton soupçonneux. Elle se retourna, les lèvres pincées. « Pour ma part, je me serais bien gardé de discuter avec elle quand elle avait cette expression. » « Avec l'épingle de Fitz, je l'ai montré à l'aubergiste pour obtenir cette chambre. Et pendant que vous dormiez tous les deux, je l'ai porté chez un joaillier et je l'ai vendu. » Burik avait ouvert la bouche. Mais elle ne lui laissa pas le temps de l'interrompre. « Je sais marchander, et j'en ai tiré tout son prix. »
« Son prix ne se comptait pas qu'en épaisse sonnante et trébuchante. C'est Horty qui aurait dû hériter de cette épingle. »
Les traits de Burik étaient aussi tendus que ceux de Molly. Horty avait beaucoup plus besoin d'un lit bien chaud et de gruau que d'une épingle en argent sertie d'un rubis. Même Fitz aurait eu la sagesse de le reconnaître. Curieusement, elle avait raison. Mais Burik répondit
« Je vais devoir travailler bien des jours pour la racheter afin de la lui donner. »
Molly, sans le regarder, jouait avec la bande de lin. « Vous êtes têtu et vous ferez comme bon vous semblera sur ce sujet, je n'en doute pas, » dit-elle. Burik garda le silence. Il essayait manifestement de savoir si cette réponse signifiait qu'il était sorti vainqueur de la dispute. Molly retourna auprès de lui et s'assit pour lui oindre le bas du dos. Il serra les dents, mais ne dit rien. Elle vint ensuite s'accroupir devant lui. « Levez les bras, que je puisse vous bander, » fit-elle avec autorité. Il prit une inspiration, puis écarta les bras. Molly se mit à l'ouvrage avec efficacité et déroula la bande à mesure qu'elle lui en enveloppait la taille. Enfin, elle la noua sur son ventre. « Ça va mieux ? » demanda-t-elle.
« Beaucoup. »
Il voulut s'étirer, puis se ravisa. « Il y a de quoi manger, » dit-elle en se dirigeant vers la table.
« Un peu plus tard. »
Je vis le regard de Burik s'assombrir, celui de Molly aussi. Elle se retourna vers lui, les lèvres encore une fois pincées.
« Molly. »
Il poussa un soupir, puis essaya de nouveau.
« Horty est l'arrière-petite-fille du roi subtil. C'est une loi voyant. Pour Royal, c'est une menace et il risque de tenter une deuxième fois de vous tuer toutes les deux. J'en suis même certain. »
Il se gratta la barbe. Comme Molly ne répondait pas, il suggéra.
« Peut-être Le seul moyen de vous mettre à l'abri est-il de vous placer, elle et vous, sous la protection du roi. Je connais quelqu'un. Fitz vous en a peut-être parlé. Imbre. Elle secoua la tête, les lèvres closes. Ses yeux devenaient de plus en plus noirs. Il pourrait emmener Horty en lieu sûr et veiller à ce que vous ne manquiez de rien. Il prononça ces mots lentement à contre-cœur. La réplique de Molly ne se fit pas attendre.
« Non, ce n'est pas une loi voyant. Elle est à moi, et je ne la vendrai jamais, ni pour de l'argent, ni pour la sécurité. »
Elle foudroya Burick du regard et cracha presque la question suivante.
« Comment avez-vous pu imaginer que je pourrais me séparer d'elle ?»
Sa fureur fit sourire Burick, et je lus sur son visage un soulagement mêlé de remords.
« Je ne l'imaginais pas, mais je me sentais obligé de vous proposer cette solution. »
Il poursuivit d'un ton encore plus hésitant.
« J'ai envisagé un autre moyen, mais j'ignore ce que vous en penserez. Il nous faudra nous en aller, trouver une ville où personne ne nous connaît. »
Il baissa soudain le regard vers le plancher.
« Si nous nous marions avant d'y parvenir, nul ne douterait qu'elle soit de moi. »
Molly s'immobilisa comme pétrifiée. Le silence s'apesantit. Burick releva les yeux et la regarda d'un air implorant.
« N'y voyez aucune malice. Je n'espère rien de vous, de cette façon. Et puis, vous n'êtes pas obligé de m'épouser. Il y a des pierres témoins à Kevdor. Nous pourrions nous y rendre avec un ménestrel, et là, je jurerais solennellement qu'elle est de moi. Nul ne mettrait mon serment en doute. »
« Vous seriez prêt à mentir devant une pierre témoin ?» demanda Molly, incrédule. « Vous feriez ça pour protéger Horty ?» Il acquiesça lentement. Il n'avait pas quitté Molly des yeux. Elle secoua la tête. « Non, Burick, je ne peux pas accepter. C'est risquer d'attirer la pire des mauvaises fortunes. Tout le monde sait ce qu'il advient de ceux qui profanent les pierres témoins par un mensonge. »
« Je veux bien courir le risque, » répondit-il d'un ton sinistre.
Je ne l'avais jamais vu prêt à mentir avant qu'Horty n'entre dans sa vie, et voilà qu'il se proposait de se parjurer. Je me demandais si Molly se rendait compte de ce qu'il lui offrait. Oui, elle s'en rendait compte.
« Il n'est pas question que vous mentiez. »
Elle avait parlé d'un ton irrévocable.
« Molly, je vous en prie,
taisez-vous »
fit-elle inflexible. Elle pencha la tête et le regarda d'un air songeur. « Burick, » reprit-elle avec une légère hésitation dans la voix. « J'ai entendu dire, Brodette prétendait que vous aviez aimé Patience autrefois. » Elle prit une inspiration. « L'aimez-vous encore ?» La colère se grava sur les traits de Burick, mais Molly soutint son regard avec des yeux implorants, et il finit par détourner la tête. Sa réponse fut presque inaudible.
« J'aime les souvenirs que j'ai d'elle, telle qu'elle était alors, telle que j'étais alors. Je l'aime sans doute comme vous aimez encore Fitz. »
Ce fut au tour de Molly de faire la grimace. « Certains aspects de lui, que je me rappelle, oui. » Elle hocha la tête comme si elle se remémorait quelque chose, puis elle leva les yeux et regarda Burick. Mais il est mort. Que ces mots avaient un caractère curieusement définitif dans sa bouche. Elle reprit, une note suppliante dans la voix.
Écoutez-moi, et ne m'interrompez pas. Toute ma vie, ça a été d'abord mon père. Il répétait qu'il m'aimait, et pourtant, quand il me frappait et me maudissait, je ne sentais aucun amour chez lui. Ensuite, Fitz. Il jurait qu'il m'aimait, et il me touchait avec douceur, mais dans ses mensonges, je ne percevais aucun amour. Aujourd'hui, vous, Burick, vous ne m'entretenez jamais d'amour. Vous ne m'avez jamais effleuré, ni sous l'effet de la colère, ni sous le coup du désir. Cependant, votre silence et votre regard me parlent davantage d'amour que leurs paroles et leur façon de me toucher.
Elle attendit sa réaction, mais il ne dit rien.
Uric,
fit-elle au bord du désespoir.
Vous êtes jeune et belle, répondit-il à mi-voix. Vous débordez d'énergie. Vous méritez mieux.
Uric, m'aimez-vous ?
Demanda-t-elle avec simplicité, d'un ton doux.
Il croisa ses mains balafrées entre ses genoux.
Oui.
Les articulations de ses doigts blanchirent. L'essayerait-il pour empêcher ses mains de trembler ? Le sourire de Molly éclata comme le soleil qui sort de derrière un nuage.
Alors, épousez-moi, et après, si vous le souhaitez, j'irai devant les pires témoins. J'affirmerai que j'étais votre compagne avant notre mariage, et je montrerai la petite.
Il leva enfin les yeux vers elle, une expression incrédule sur le visage.
Vous seriez prête à m'épouser, moi, vieux, sans le sou et couturé de cicatrices.
Je ne vous vois pas ainsi. Pour moi, vous êtes l'homme que j'aime.
Il secoua la tête. La réponse de Molly n'avait fait que le plonger davantage dans la perplexité.
Et la mauvaise fortune que vous évoquiez, vous seriez prête aussi à mentir devant une pierre témoin.
Le sourire de Molly changea. C'était un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps, et il me brisa le cœur.
Ce ne sera pas obligatoirement un mensonge, fit-elle tranquillement.
Les narines évasées comme celles d'un étalon, Uric se leva brusquement. Il prit une inspiration qui lui gonfla la poitrine.
Attendez,
ordonna-t-elle à mi-voix. Et il obéit. Elle sumecta le pouce et l'index et moucha vivement toutes les bougies, sauf une. Puis, elle traversa la pièce assombrie pour se jeter dans ses bras. Je me sauvai.
Oh, mon garçon, je suis navré.
Je secouai la tête sans répondre. J'avais les yeux fermés, les paupières étroitement closes, mais des larmes s'en échappèrent néanmoins. Je retrouvai ma voix.
Ce sera un bon mari et un bon père.
C'est l'homme qu'elle mérite.
Non, en vérité, je dois puiser du réconfort de le savoir avec elle, prêt à s'occuper d'elle.
Du réconfort. Je ne trouvais aucun réconfort, rien que de la souffrance.
J'ai l'impression de t'avoir escroqué.
La peine de vérité paraissait authentique.
Non, ce n'est pas grave. Je repris mon souffle. Allons-y, vérité.
J'aimerais en finir le plus vite possible.
Tu es sûr? Quand vous voudrez.
Il m'arracha ma vie.
C'était un rêve que j'avais déjà fait. Je me sentais dans un corps de vieillard. La première fois, cela avait été celui du roi subtil, dans une chemise de nuit moelleuse, sur un lit propre. Cette fois-ci était moins agréable. Chacune de mes articulations était douloureuse, les viscères me brûlaient et j'avais la sensation de m'être ébouillanté le visage et les mains. Il subsistait plus de souffrance que de vie dans ce corps. On eût dit une chandelle consumée presque jusqu'à la bobèche. J'ouvris les yeux. Mes paupières collaient. J'étais étendu sur de la pierre froide et rêche. Un loup montait la garde auprès de moi.
Ça n'est pas bon,
me dit-il. Je ne trouvais rien à répondre. En tout cas, ce n'était pas normal. Au bout d'un moment, je me mis à quatre pattes. Mes mains me faisaient mal. Mes genoux me faisaient mal. Toutes mes articulations gémirent quand je me redressais pour balayer mon environnement du regard. La nuit était tiède, pourtant je frissonnais. Au-dessus de moi, sur un socle, un dragon inachevé sommeillait.
« Je ne comprends pas. »
Œil de nuit implorait une explication. « Je n'ai pas envie de comprendre. Je ne veux pas savoir.
Mais que je le veuille ou non, je savais. Je me mis à marcher à pas lents et le loup vint se placer près de moi. Nous passâmes devant un feu mourant entre deux tentes. Nul n'était de veille. De petits bruits s'échappaient de la yourte de Ketriken. Dans la quasi-obscurité, elle voyait le visage de Vérité, ses yeux noirs plongés dans les siens. Elle croyait que son époux était enfin venu la rejoindre. Et c'était vrai. Je ne voulais rien entendre, je ne voulais rien savoir. Je poursuivis mon chemin à pas prudents de vieillard. D'énormes blocs de pierre noire se dressaient tout autour de nous, et devant nous montait un faible cliquetis métallique. Je traversai les ombres dures des pierres et sortis au clair de lune. « Ah, une époque, tu as partagé mon corps. Est-ce pareil ?»« Non. » J'avais prononcé le mot tout haut, et dans le sillage de ma voix, je perçus un bruit de fuite. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je vais voir. » Le loup se fondit dans la pénombre et revint aussitôt. « Ce n'est que le sans-odeur. Il se cache. Il ne te reconnaît pas. » Je savais où le trouver, et je pris mon temps. Ce corps était à peine en mesure de se déplacer. Il n'était donc pas question de presser le pas. Quand j'arrivais à la femme au dragon, j'escaladais son socle avec les plus grandes difficultés, et là, je distinguais les tailles fraîches un peu partout dans la pierre. Je m'assis avec précaution sur la patte glacée de la créature et examinais le travail du fou. Il avait presque dégagé la statue. « Fou ?» dis-je doucement dans la nuit. Il émergea lentement des ombres pour se placer devant moi, les yeux baissés. « Mon roi, » fit-il à mi-voix, « j'ai essayé, mais je ne peux me retenir, je ne peux pas l'abandonner ainsi. » Je hochai la tête sans répondre. Au pied de l'estrade, Œil de Nuit poussa un gémissement. Le fou le regarda, puis ramena les yeux vers moi. Une expression perplexe passa sur ses traits. « Monseigneur ?» Je cherchais et trouvais le mince lien d'art qui nous unissait. Le visage du fou se pétrifia, tandis qu'il s'efforçait de comprendre. Puis, il vint s'asseoir près de moi et me scruta, comme si son regard pouvait percer l'enveloppe de vérité. « Je n'aime pas ça, » dit-il enfin. « Moi non plus, » répondis-je. « Pourquoi avez-vous ?»« Mieux vaut ne pas le savoir, » fis-je, sans m'étendre. Nous nous tûmes un moment, puis le fou se tourna pour balayer de la main des gravillons de la patte du dragon. Il croisa mon regard et le soutint, mais c'est avec des gestes encore furtifs qu'il tira un ciseau de sa chemise. Une pierre lui servait de masse. « C'est l'outil de vérité. » observai-je.
« Je sais, mais il n'en a plus besoin, et j'ai cassé mon poignard. »
Avec soin, il posa le tranchant du ciseau sur la pierre.
« Et puis, c'est beaucoup plus efficace. »
À petit coup, il fit sauter un nouveau fragment de roche. J'accordai mes pensées aux siennes. « Elle puise dans ton énergie, » remarquai-je à mi-voix.
« Je sais. »
Un autre éclat de pierre.
J'ai été trop curieux, et je lui ai fait mal en la touchant.
Il replaça son ciseau en position.
J'ai le sentiment de lui être redevable.
Elle pourrait prendre tout ce que tu lui offres, fou. Ce ne serait pas encore suffisant.
Qu'en sais-tu ?
Je haussai les épaules. Ce corps le sait. Soudain, devant mes yeux ébahis, il toucha du bout de ses doigts enduits d'art la zone qu'il avait dégagée. Je fis la grimace, mais ne perçus nulle douleur chez la femme. En revanche, elle lui prit une part de lui-même. Cependant, il ne possédait pas l'art pour la façonner à main nue, et ce qu'il lui donnait avait pour seul effet de la tourmenter davantage.
« Elle me rappelle ma grande sœur, »
dit-il sans me regarder.
« Elle avait les cheveux dorés. »
Je restai pétrifié par la surprise. Toujours sans me regarder, il ajouta,
« J'aurais bien aimé la revoir. »
Elle me gâtait honteusement.
J'aurais voulu revoir toute ma famille. »
Il parlait d'un ton de profond regret tout en caressant distraitement la pierre taillée du bout des doigts.
« Fou, tu veux bien me laisser essayer ?»
Il m'adressa un regard où se lisait comme de la jalousie.
« Elle risque de ne pas t'accepter. »
Dans ma barbe, je lui souris du sourire de vérité. « Il y a un lien entre toi et moi très fin, et que ni l'écorce elfique, ni ta fatigue ne renforce, au contraire. Mais il existe. Mets la main sur mon épaule. » J'ignore pourquoi j'agis ainsi. Peut-être parce qu'il n'avait jamais évoqué devant moi une grande sœur ni un foyer dont il éprouvait la nostalgie. Toutefois, je refusais de me poser des questions. Ne pas penser était beaucoup plus simple et ne rien ressentir encore bien davantage. Le fou plaça sa main intacte, non sur mon épaule, mais sur le côté de mon cou. Instinctivement, je sus qu'il avait raison. Peau contre peau, je le percevais mieux. Je levai les mains argentées de vérité à hauteur de mes yeux et m'émerveillais, argentées à la vue, brûlantes et vives à la sensation. Puis, avant d'avoir le temps de changer d'avis, j'agrippai à deux mains l'informe patavant du dragon. Aussitôt, j'éprouvai sa présence. Il bougeait dans la pierre. Je sentis le contour de chaque écaille, l'extrémité acérée de chaque griffe, et je connus la femme qui les avait sculptées. Les femmes, un clan. Il y avait très longtemps, le clan de Celle. Mais Celle s'était montrée présomptueuse. C'était à son image qu'avait été taillé le visage de pierre. Et elle avait cherché à conserver sa forme humaine en se représentant sur le dragon que son clan façonnait autour d'elle. Ses membres étaient trop fidèles pour s'y opposer. Et elle avait failli réussir. Le dragon avait été achevé et presque rempli. Il s'était éveillé, puis avait entrepris de s'envoler à mesure qu'il absorbait les membres du clan, mais Celle, elle, s'était efforcée de ne s'inclure que dans la statue de femme, sans se donner au dragon. Alors, la créature était retombée avant même de prendre son vol, et s'était renfoncée dans la pierre, où elle avait fini embourbée, le clan pris au piège en elle, et Celle dans la femme. Je suis tout cela en moins de temps qu'il n'en faut à la foudre pour s'abattre. Je sentis aussi la faim du dragon, qui m'attirait et m'implorait de lui donner à manger. Il avait déjà beaucoup pris au fou. Je sentis ce que mon compagnon lui avait donné, la lumière et l'obscurité, les railleries des jardiniers et des chambellans de Castelserre quand il était enfant, une branche de pommier en fleurs devant une fenêtre au printemps, une image de moi dans la cour du château, mon pourpoint battant au rythme de mes pas pressés derrière Burick, dont je m'efforçais d'imiter les longues enjambées, malgré ma trop petite taille. Un poisson d'argent bondissant à l'aube au-dessus d'un étang silencieux. Le dragon tiraillait mon esprit avec insistance, et je compris soudain ce qui m'avait attiré auprès de lui. Prends mes souvenirs de ma mère et les émotions qui les accompagnent. Je ne veux rien en savoir. Prends le garrot qui me sert quand je pense à Molly. Prends toutes les images vives et colorées des jours passés avec elle. Prends leurs brillants et ne me laisse que les ombres de ce que j'ai vu et ressenti. Que je me les rappelle sans me couper sur leurs arêtes trop aiguës. Prends mes jours et mes nuits dans les cachots de Royal. Savoir ce qu'on m'a fait suffit. Prends-les et garde-les. Que je ne sente plus mon visage contre ce sol de pierre. Que je n'entende plus mon nez se briser, que je ne perçoive plus le goût ni l'odeur de mon propre sang. Prends ma douleur de n'avoir jamais connu mon père. Prends les heures écoulées à regarder son portrait quand la grande salle était vide et que nul ne me dérangeait. Prends mes...
Fitz, arrête! Tu lui donnes trop. Il ne va plus rien rester de toi.
C'était le fou, frappé d'horreur devant ce qu'il avait déclenché. Souvenir du sommet de la tour, du jardin de la reine, mort et balayé par les rafales de vent, alors que Galen se dressait au-dessus de moi. Prends l'image de Molly, se jetant de si bon cœur dans les bras de Burick. Prends-la, éteins-la, et enferme-la à double tour, là où elle ne pourra plus jamais me brûler. Prends,
Mon frère, ça suffit.
Œil de Nuit se trouva tout à coup entre le dragon et moi. Je tenais toujours la patte écailleuse, je le savais, mais le loup lui montrait les dents en grondant, défiant le dragon d'aspirer davantage de mon identité.
Ça m'est égal s'il prend tout,
dis-je à Œil de Nuit.
Mais pas à moi. Je préférerais me lier à un forgisé. Va-t'en, sans chaleur.
Il grondait physiquement autant que mentalement. À ma grande surprise, le dragon céda. Mon compagnon me pinça l'épaule.
Lâche-le, écarte-toi.
Je lâchai la patte de la créature et j'ouvris les yeux, étonné de constater qu'il faisait encore nuit. Le fou avait passé un bras autour du cou d'Œil de Nuit.
Fitz,
murmura-t-il. Il pressait son visage dans le pelage du loup. Pourtant, je l'entendais clairement.
Fitz, je regrette, mais tu ne peux pas rejeter toute ta souffrance. Si tu cesses d'éprouver la douleur.
Je ne l'écoutais plus. J'avais les yeux fixés sur la patte du dragon. Là où j'avais touché la pierre informe, se trouvaient à présent deux empreintes de main dans lesquelles chaque écaille ressortait, parfaite et splendide. Tout cela, me dis-je, tout cela pour dévoiler si peu de cette créature. Je songeais alors au dragon de vérité. Il était immense. Comment mon roi avait-il fait? Qu'avait-il en lui depuis tant d'années pour façonner un tel géant?
Votre oncle ressent profondément ce qu'il vit. Il a connu de grands amours et une loyauté sans bornes. Parfois, je trouve mes 200 et quelques années d'existence bien pâles en comparaison de tout ce qu'il a éprouvé en une simple quarantaine.
Nous nous tournâmes tous trois vers Caudron. Je n'étais pas surpris. Je savais qu'elle arrivait, mais je n'y avais pas attaché d'importance. Elle prenait lourdement appui sur un bâton, et la peau de son visage semblait pendre de ses os. Elle croisa mon regard, et je sentis qu'elle savait tout. Liée par l'art à vérité comme elle l'était, rien ne lui avait échappé.
« Descendez tous de là avant de vous faire mal !»
Nous obéîmes lentement. Moi, encore plus que mes deux compagnons. Les articulations de vérité étaient douloureuses et son corps épuisé. Caudron m'adressa un regard sinistre quand je parvins enfin près d'elle.
« Si vous vouliez vous vider, vous auriez mieux fait de vous épancher dans le dragon de vérité, »
dit-elle. « Il n'aurait pas accepté, vous non plus. »«
Nous n'aurions pas accepté, en effet. »« Laissez-moi vous avertir, Fitz. Ce dont vous vous êtes débarrassé va vous manquer. Avec le temps, vous retrouverez une partie des émotions perdues, naturellement. Tous les souvenirs sont liés entre eux, et à l'instar de la peau, ils sont capables de se cicatriser. Mais avec le temps encore, ils auraient cessé de vous faire mal. Un jour, peut-être, vous regretterez de ne pouvoir ressentir ces peines. »
Cela m'étonnerait, répondis-je calmement pour dissimuler mes propres doutes. J'ai encore beaucoup de souffrance en réserve. Caudron leva le visage vers le ciel nocturne et prit une longue inspiration.
« L'aube vient, »
dit-elle, comme si elle l'avait humée.
« Vous devez retourner au dragon, celui de vérité. Quant à vous deux, »
poursuivit-elle en regardant le fou et Œil de Nuit,
« vous devriez monter jusqu'à ce poste d'observation là-bas pour vérifier si les troupes de Royal sont déjà visibles. Œil de Nuit, transmets à Fitz ce que tu verras. Allez tous les deux. Et fou, laissez désormais la femme au dragon tranquille. Il faudrait que vous lui donniez votre vie tout entière, et ce ne serait peut-être pas encore assez. Cela étant, cessez de vous torturer, elle et vous. Allons, en route maintenant. »
Ils obéirent non sans quelques regards en arrière.
Venez,
m'ordonna Caudron d'un ton sévère, et elle repartit en claudiquant par où elle était arrivée. D'une démarche aussi raide, je la suivis par les ombres noires et argentées des blocs éparpillés de la carrière. Elle accusait nettement ses 200 et quelques années, et moi, je me sentais encore plus âgé. Avec mon corps douloureux, mes articulations qui coinçaient et craquaient. Je me grattai l'oreille, puis je rabattis brusquement la main, penaud. Vérité aurait désormais une oreille argentée. Déjà la peau du pavillon me cuisait, et les insectes nocturnes bourdonnaient plus fort.
À propos, je suis navré de ce qui se passe avec Molly. J'ai essayé de vous prévenir. »
À l'entendre, elle ne paraissait nullement navrée. Mais à présent, je comprenais pourquoi. Toutes ses émotions, ou presque, se trouvaient dans le dragon. Elle exprimait intellectuellement ce qu'elle aurait ressenti naguère. Elle avait de la peine pour moi, mais il ne restait plus de peine en elle à quoi la comparer. Je me contentais de demander à mi-voix. N'y a-t-il donc plus d'intimité ?
Seulement pour ce que nous nous dissimulons à nous-mêmes, répondit-elle d'un ton affligé.
Elle se tourna vers moi.
C'est bien. Ce que vous faites cette nuit, c'est gentil.
Un sourire effleura ses lèvres, mais des larmes perlèrent à ses yeux.
Donnez à vérité une dernière nuit de jeunesse et de passion.
Elle me scruta des yeux et vit mon visage fermé.
Eh bien, je n'en dirai pas davantage là-dessus.
Nous poursuivîmes notre chemin en silence. Assis près des braises du feu, je contemplais l'aube qui se levait. Les stridulations des insectes nocturnes laissaient place peu à peu aux appels lointains des oiseaux du matin. Je les entendais avec une clarté parfaite. « Comme c'est étrange, me dis-je, de s'attendre soi-même. » Caudron se taisait. À longues inspirations, elle humait l'air à mesure qu'il passait des parfums de la nuit à ceux de l'aurore, et elle observait avec des yeux avides le ciel qui s'éclairait. C'était autant d'impressions qu'elle engrangeait pour les intégrer au dragon. J'entendis un crissement de bottes, levai le regard et me vis approcher. Je marchais d'un pas vif et assuré, la tête droite. Mon visage était lavé de frais, mes cheveux humides ramenés en arrière en queue de guerrier. Vérité portait bien mon corps. Nos yeux se croisèrent dans la lumière de l'aube. Je vis les miens s'étrécir alors que Vérité jaugeait son propre aspect. Je me redressai et, sans réfléchir, me mis à épousseter mes vêtements. Soudain, je pris conscience de mon attitude. Ce n'était pas une chemise que j'avais empruntée. J'éclatai d'un rire tonnant, plus sonore que le sien. Vérité secoua la tête.
« Laisse, mon garçon. Tu ne l'amélioreras pas, et de toute façon, j'en ai presque fini avec lui. »
Il tapa sur sa poitrine du plat de la main.
« Autrefois, j'avais un corps semblable,
me dit-il, comme si je l'ignorais.
J'avais oublié une grande partie des sensations que cela procure. Une très grande partie. »
Son sourire s'effaça devant le regard scrutateur que je lui adressais par ses propres yeux.
« Prends-en soin, Fitz. On n'en a qu'un seul. Enfin, si on reste dedans. »
Une vague de vertige m'envahit et les ténèbres obscurcirent les bords de mon champ de vision. Je fléchis et tombai à genoux pour éviter de m'écrouler.
« Pardon, »
murmura Vérité de sa propre voix. Je levai les yeux. Debout près de moi, il m'observait. Je lui rendis son regard sans prononcer un mot. Je sentis l'odeur de Kétriken sur ma peau. Mon corps était très fatigué. L'espace d'un instant, une indignation absolue jaillit en moi. Puis, elle se stabilisa et retomba, comme si l'effort était trop grand pour maintenir vive cette émotion. Les yeux de Vérité croisèrent les miens et acceptèrent tout ce que j'éprouvais.
« Je ne te présente ni excuses ni remerciements. Ni les uns ni les autres ne seraient appropriés. »
Il secoua la tête.
« Et, en vérité, comment prétendre que je regrette ? Je ne regrette rien. »
Son regard passa au-dessus de ma tête.
Mon dragon va prendre son essor. Ma reine, portez un enfant et moi, chassez les pirates rouges de nos côtes.
Il prit une profonde inspiration.
Non. Je ne regrette pas notre marché.
Ses yeux revinrent vers moi.
Fitz Chevalerie, le regrettes-tu ?
Je me relevai lentement. Je n'en sais rien. Je m'efforçais de sonder mes sentiments. Les racines en sont trop lointaines, dis-je enfin. Par où commencer pour éradiquer mon passé? Jusqu'où devrais-je remonter? Que devrais-je modifier pour changer ce qui s'est passé ou pour affirmer que je n'ai pas de regrets?
La route est déserte,
fit Œil de Nuit dans mon esprit. Je sais, et Caudron aussi le sait. Elle cherchait seulement à occuper le fou, et elle t'a envoyé l'accompagner pour le protéger. Vous pouvez revenir maintenant.
Ah, vas-tu bien?
Fitz-Chevalerie, vas-tu bien? L'inquiétude perçait dans le ton de vérité, sans masquer complètement l'allégresse sous-jacente.
Non, évidemment, leur répondis-je. Non.
Et je m'éloignai du dragon. Derrière moi, j'entendis Caudron demander d'une voix vibrante.
« Sommes-nous prêts à l'éveiller ?»
Le murmure de vérité me parvint ensuite. « Non, pas encore, pas tout de suite. Je voudrais garder un petit moment ces souvenirs pour moi-même, l'espace de quelques instants. Je voudrais rester un homme. » Comme je traversais le camp, Ketriken sortit de sa tente. Elle portait la même tunique et les mêmes jambières usées par le voyage que la veille. Ses cheveux étaient noués en une sorte de tresse épaisse et courte. Les plis soucieux de son front et de sa bouche n'avaient pas disparu, mais son visage affichait la chaude luminescence des perles les plus fines et une fois renouvelée brillait dans ses yeux. Elle inspira profondément l'air du matin et m'adressa un sourire radieux. Je pressai le pas. Le ruisseau était très froid. Des prêles aux tiges dures poussaient le long d'une dérive et j'en pris plusieurs poignées pour me laver vigoureusement. J'avais étalé mes vêtements mouillés sur les buissons de l'autre côté du cours d'eau en comptant sur la chaleur du jour pour les sécher rapidement. Œil de Nuit, assis sur la berge, m'observait avec une ride perplexe entre les yeux.
« Je ne comprends pas. Tu ne sens pas mauvais. »
« Va chasser, Œil de Nuit, s'il te plaît. »
Tu veux rester seul?
Autant que c'est encore possible, oui. Il se leva et s'étira. On eût dit qu'il s'inclinait devant moi.
Un jour, il n'y aura que toi et moi, alors nous chasserons, nous mangerons et nous dormirons, et tu guériras.
Puissions-nous survivre pour connaître ce jour, acquiesçais-je de tout mon cœur. Le loup disparut entre les arbres. À titre d'expérience, je frottais les empreintes de doigts du fou qui apparaissaient sur mon poignet. Elles ne s'effacèrent pas, mais j'en appris beaucoup sur le cercle de vie de la prêle des marais. Je renonçais. Même si je m'arrachais toute la peau du corps, je ne me sentirais pas encore délivré de ce qui s'était passé. Je sortis du ruisseau en agitant les bras pour en faire tomber les gouttes d'eau. Mes vêtements avaient suffisamment séché pour que je puisse les remettre, et je m'assis sur la rive pour renfiler mes bottes. Je faillis penser à Molly et Burick, mais je chassais vivement leur image de mon esprit en me demandant dans combien de temps les soldats de Royal allaient arriver, et si Vérité aurait alors achevé son dragon. Peut-être l'avait-il déjà terminé. J'avais envie de le voir. Mais j'avais plus encore envie de demeurer seul. Je m'allongeais dans l'herbe et plongeais mon regard dans l'azur du ciel, puis je m'efforçais d'éprouver une émotion, angoisse, passion, colère, haine, amour, mais je n'en tirais qu'un sentiment de confusion et de fatigue aussi bien physique que mentale. L'éclat du soleil m'obligea à fermer les yeux. Des notes de harpe se faufilèrent dans les bruits de l'eau. Elles s'y mêlèrent, puis dansèrent à part. J'ouvris les yeux et aperçus Astéri, assise sur la berge près de moi, en train de jouer de son instrument. Les ondes de ses cheveux défaits séchaient au soleil sur son dos. Elle avait un brin d'herbe à la bouche et ses pieds nus s'enfonçaient dans le gazon moelleux. Elle soutint mon regard sans rien dire. J'observais ses doigts qui couraient sur les cordes. Elle forçait sur sa main gauche pour compenser la raideur de l'annulaire et de l'auriculaire. J'aurais dû éprouver quelque chose à cette vue, mais j'ignorais quoi. À quoi servent les sentiments? Ma propre question me prit par surprise. Astéri cessa de jouer, les doigts en suspens sur les cordes, et plissa le front. Je ne pense pas qu'il existe de réponse à cela. De toute manière,
Je n'ai guère de réponse à rien ces derniers temps. Pourquoi n'êtes-vous pas dans la carrière à les regarder achever le dragon? Il y a sûrement matière à une chanson dans un tel événement.
Parce que je suis ici avec vous?
Fit-elle simplement. Soudain, elle sourit. Et parce que tout le monde a l'air occupé. Caudron d'or, Kétriken et Vérité. La reine se coiffait quand je suis parti. Je ne me rappelle pas avoir vu le roi Vérité sourire jusque-là. Il vous ressemble beaucoup alors, surtout dans le regard. Bref, je ne crois pas leur manquer.
Et le fou?
Elle secoua la tête. Il taille la pierre tout autour de la femme au dragon. Il ne devrait pas, je sais, mais il ne peut pas résister à mon avis, et je ne vois aucun moyen de le retenir.
Ça m'étonnerait qu'il puisse aider cette femme, mais il ne peut pas s'empêcher d'essayer. Malgré sa langue acérée, c'est un tendre.
Je le sais maintenant. Par certains côtés, j'ai réussi à très bien le connaître. Par d'autres, en revanche, il me restera toujours incompréhensible. Je hochai la tête. Le silence s'installa, puis soudain, de façon subtile, il changea de qualité.
« Pour tout vous dire, » fit Astérie, mal à l'aise, « c'est le fou qui m'a suggéré d'aller vous retrouver. »
Je grognais. Que lui avait-il raconté sur moi?
« Je suis navré pour Molly. »
J'achevais sa pensée à sa place. « Mais cela ne vous étonne pas. » Je levai le bras vers mon front pour abriter mes yeux du soleil.
« Non, »
murmura-t-elle, « cela ne m'étonne pas. » Elle chercha manifestement qu'ajouter.
« Au moins, vous la savez protégée et à l'abri du besoin, » dit-elle enfin.
« Je le savais, oui, et je me sentais honteux d'en tirer si peu de consolation. » Rejeter ma détresse dans le dragon m'avait aidé, au même titre que l'amputation peut aider un blessé. Se débarrasser d'une souffrance n'équivalait pas à en être guéri. La zone vide au milieu de mes émotions me démangeait. Peut-être avais-je envie d'avoir mal. Sous mon bras toujours levé, j'observais la ménestrelle.
« Fitz, reprit-elle à mi-voix, je vous l'ai déjà proposé une fois, pour vous, en toute douceur et toute amitié, pour chasser un souvenir. »
Elle détourna les yeux vers les éclats de soleil sur l'eau du ruisseau.
« Je vous le propose à nouveau, »
dit-elle humblement. « Mais je ne suis pas amoureux de vous, » répondis-je avec franchise, et je sentis aussitôt que je n'aurais pas pu trouver pire réplique en cet instant. Avec un soupir, Astérie posa sa harpe à côté d'elle.
« Je le sais, et vous aussi. Mais ce n'était pas à dire maintenant.
Je viens de m'en rendre compte. Mais je ne veux plus de mensonges, formulés ou non. » Elle se pencha et me fit un bâillon de ses lèvres. Au bout d'un moment, elle s'écarta légèrement.
« Je suis ménestrel. J'en sais davantage sur les mensonges que vous n'en apprendrez jamais.
Et les ménestrels n'ignorent pas qu'on en a parfois besoin plus que de tout afin d'en tirer une vérité nouvelle. »
« Astérie, vous allez dire ce qu'il ne faut pas et vous le savez. Alors, pourquoi ne pas vous taire un peu ? Ne compliquez pas la situation. Cessez de penser un petit moment. »
Ce fut en réalité un long moment. Quand je me réveillais, Astérie était encore allongée contre moi, toute chaude. Œil de Nuit me regardait de tout son haut, haletant sous la chaleur du soleil. Quand j'ouvris les yeux, il rabattit ses oreilles en arrière et agita lentement la queue. Une goutte de salive tiède tomba sur mon bras.
« Va-t'en. Les autres vous appellent et vous cherchent partout. »
Il pencha la tête et proposa
« Je pourrais montrer à Kétriken où vous trouvez. »
Je me redressai sur mon séant et j'écrasai trois moustiques sur ma poitrine qui maculèrent de sang. Je pris ma chemise. « Quelque chose ne va pas ?»«
Non, ils sont prêts à éveiller le dragon et Vérité souhaite vous dire adieu. »
Je secouai doucement Astérie.
« Debout. Ou Vérité va éveiller le dragon sans toi. »
Elle se retourna paresseusement.
« Pour ça, je veux bien me lever. Mais rien d'autre ne pourrait m'y inciter.
En outre,
C'est peut-être ma dernière chance de composer une chanson. Le destin a décidé que je devais toujours me trouver ailleurs quand tu fais quelque chose d'intéressant. Je ne pus m'empêcher de sourire. Alors, pas de balade sur le bâtard de chevalerie, finalement ? Fis-je pour la taquiner. Une, peut-être. Une balade d'amour. Elle m'adressa un dernier sourire complice. Cet épisode-là, au moins, était intéressant. Je me levai, puis l'aidai à en faire autant, et enfin l'embrassai. Œil de Nuit poussa un gémissement d'impatience, et Astérie pivota brusquement dans mes bras. Le loup, en s'étirant, s'inclina profondément devant elle. La ménestrelle se retourna vers moi, les yeux écarquillés. « Je t'avais prévenu ?» lui dis-je. Elle éclata de rire et se baissa pour ramasser nos vêtements.